Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris. C'est l'heure d'Afrique Midi sur RFI. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la création d'un comité chargé de passer en revue les contrats passés avec les sociétés internationales. C'était l'un des thèmes de sa campagne. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, agressé et blessé hier au Togo. En toute impunité, de gros bras ont envahi et saccagé la salle où il assistait à une réunion de l'opposition. Mise en cause, le gouvernement de Lomé dénonce des accusations sans fondement. Médecins sans frontières s'alarme de l'explosion du nombre de victimes de viol en République démocratique du Congo. 25 000 personnes soignées dans les centres de santé de l'ONG l'an dernier. Plus de deux fois plus que les années précédentes. La grande majorité des victimes sont recensées au Nord Kivu, dans les camps de déplacés qui ne cessent de s'étendre aux environs de Goma.
Christopher Mamboula, responsable des programmes de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo, est l'invité d'Afrique Midi.
Ce sera l'un de ses derniers voyages comme président, mais le tout premier en Afrique. Joe Biden ira en Angola du 13 au 15 octobre. L'Angola, un partenaire que les États-Unis entendent choyer face à la concurrence chinoise. Les promesses de grands ménages des nouvelles autorités du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait déjà dénoncé ce qu'il qualifie de corruption généralisée du régime sortant. Hier, Léalisa Westerhoff, le président Bassirou Diomaye Faye, lui, a annoncé la création d'un comité chargé de passer en revue les contrats passés signés par le Sénégal avec des entreprises étrangères.
Oui, un comité qui travaille depuis environ un mois pour faire l'inventaire des conventions et des contrats qui ont été signés par le Sénégal, avec en ligne de mire une possible renégociation si le Sénégal ne devait pas sortir gagnant de ces accords. Voilà ce qu'a déclaré le président Diomaye Faye dans un entretien accordé à Al Jazeera à New York. Ce réexamen des contrats avec les multinationales dans l'intérêt du Sénégal, c'est l'une des nombreuses promesses électorales des nouvelles autorités. Et le 19 août dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait officiellement installé cette commission avec à son bord des hauts cadres de l'administration sénégalaise, des experts juridiques, fiscaux et du secteur de l'énergie chargés de revoir les contrats miniers, pétroliers et gaziers entre autres.
Sait-on quels contrats ou quelles multinationales sont visées en priorité ?
Alors aucun détail sur le travail de ce comité n'a filtré depuis, mais avec un pays qui produit du pétrole depuis juin, cette commission est très attendue dans les dossiers Woodside, du nom de la compagnie australienne qui exploite le bloc pétrolier à 100 km au sud de Dakar, et British Petroleum qui opère le champ gazier partagé avec la Mauritanie dans le nord du pays, près de Saint-Louis. Aucun calendrier non plus n'a été annoncé. Le travail sera fastidieux, a d'ores et déjà prévenu le Premier ministre fin août, avec pour objectif de donner les moyens au Sénégal de rediscuter, je cite, ces différentes conventions dans le sens de beaucoup plus d'équilibre et de gains partagés pour les deux parties.
Léalisa Westerhoff, correspondante de RFI à Dakar. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères fait part de sa consternation après la violente agression à Lomé du député Guy Marius Sagna. Dakar dit condamner avec fermeté un acte inqualifiable et demande aux autorités togolaises de protéger l'intégrité physique du parlementaire. Guy Marius Sagna est à Lomé dans le cadre d'une session délocalisée du Parlement de la CDAO. Hier, il participait à une réunion publique de la DMP, la plateforme de l'opposition togolaise, quand des gros bras ont envahi la salle. Les participants ont été molestés, le mobilier vandalisé, les enregistreurs des journalistes qui étaient sur place détruits. Bilan, 7 blessés, dont Guy Marius Sagna qui a dû être conduit à l'hôpital. Il dénonce une agression scandaleuse qui en dit long, dit-il, sur les agissements du régime en place.
C'est très inquiétant que l'État togolais agisse ainsi alors que la CEDEAO est sur la terre africaine du Togo. Et donc je comprends aujourd'hui plus que jamais que le peuple frère du Togo, dans sa lutte pour la démocratie, a besoin du soutien de tout le monde, du soutien de la CEDEAO. La CEDEAO ne doit plus continuer à tourner le regard et à faire la politique de l'autruche par rapport à ce qui se passe au Togo. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux, ces méthodes-là. Et au moment où ils le faisaient, vous avez vu, la gendarmerie était là. Je dénonce énergiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas parce que ça s'est abattu sur moi, mais parce que je me dis, Si l'État du Togo est capable de faire cela, alors que la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO a une session ici, qu'est-ce qui se passe alors quand la CEDEAO n'est pas présente? Que vivent les braves femmes et les braves hommes du Togo quand ils sont entre Togolais? C'est ça la question que je me pose. Je suis très inquiet.
Guy Marius Sagna au micro de Peter Dogbe. Que répondent les autorités à ceux qui les pointent du doigt? Nous avons joint ce matin Yawa Kouigan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de Lomé.
Il y a là de l'émotion qui est normale, mais au-delà de l'émotion, beaucoup de mauvaise foi. Parce que le Togo est un pays de paix, de quiétude. Les circonstances déplorables dont nous parlons ne doivent pas nous amener à porter des accusations gratuites, ce qu'on a pu entendre par-ci, par-là, mais encore une fois, à donner à la justice togolaise tous les moyens de diligenter une enquête en bonne et due forme. Je pense d'autant moins qu'on devrait pointer un doigt accusateur sur le Togo et sur ses autorités, que la liberté de réunion, la liberté d'expression ne sont pas en question. Je voudrais dire que la violence n'a pas sa place dans la vie politique, elle n'a pas sa place dans la vie tout court, et souhaiter vraiment un prompt rétablissement aux blessés et former vraiment ardemment le vœu que notre pays, le Togo, continue de jouir de la paix, de la quiétude, que ce soit pour les Togolais ou pour toute personne qui foule le sol togolais.
Des propos recueillis par Magali Lagrange. Au Burkina Faso, les autorités avaient dénoncé lundi dernier une tentative de déstabilisation dans laquelle elles affirment que de nombreuses personnalités seraient impliquées. Eh bien, elles ont diffusé hier ce qu'elles appellent des éléments de preuve. La télévision publique a présenté une vidéo de repentir de 3 hommes, dont celui qui a été présenté comme le chef des conjurés, le commandant Ahmed Kinda, une vidéo posthume puisque cet ancien patron des forces spéciales est mort. Il aurait été tué en tentant d'échapper à son arrestation. François Mazé.
Face caméra, Ahmed Kinda, entouré par 2 complices, dit avoir été interpellé à une gare routière de Niamey le 30 août 2024, alors qu'il attendait 2 personnes censées lui présenter les caches d'armes. Ne les voyant pas arriver, il aurait informé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, ex-putschiste en exil à Lomé, le lieutenant-colonel Roméo Ouoba et le journaliste Abdoulaye Barry. C'est d'ailleurs via ce dernier qu'un autre journaliste, Serge Mathurin Adou, lui a trouvé une chambre d'hôtel pour la nuit à Niamey. Ahmed Kinda explique comment l'opération a été planifiée et avec quelles ressources humaines et matérielles. Il dit avoir demandé 150 hommes, de l'armement et du matériel de communication. Nous avons fait appel à des mercenaires à travers Abdoulaye Barry, ce sont des centrafricains, soutient-il. Pour l'armement, des fusils AK-47 pour chacun, 10 mitrailleuses lourdes PKM, 10 lance-roquettes RPG-7 et 4 mortiers. Dès lors que le jeune m'aurait indiqué où se trouvaient les hommes et le matériel, j'allais faire une réarticulation et on allait se mettre en mouvement, conclut celui qui, selon le ministre de la Sécurité, a été tué alors qu'il tentait de s'échapper au moment où il devait montrer le site de ses caches d'armes.
Il aura attendu les toutes dernières semaines de son mandat pour se rendre en Afrique. Joe Biden ira en Angola du 13 au 15 octobre prochain. Une destination éminemment stratégique pour les États-Unis qui veulent consolider leur place dans ce pays dont la Chine demeure le premier partenaire commercial. Charlotte Cosset, le président américain, mettra l'accent sur la réhabilitation du corridor ferroviaire de Lobito, 1300 km de chemin de fer entre le port angolais de Lobito et la riche région minière congolaise du Katanga.
Voilà, c'est cela. Et dans ce projet, les États-Unis et l'Europe se sont alliés. 630 millions d'euros ont déjà été mobilisés afin de rénover le tronçon très dégradé côté congolais pour exporter les minerais via la côte ouest. Un projet pourtant initialement porté par la Chine qui a, elle, investi plus de 2 milliards d'euros pour réhabiliter la voie côté angolaise et qui s'est vu ravir le contrat d'exploitation. Pour contrer cette offensive occidentale, Pékin a proposé de relancer la ligne historique Tazara qui permettrait l'exportation des minerais congolais zambiens par la côte est via la Tanzanie. Qu'à cela ne tienne, les États-Unis proposent désormais de prolonger le couloir de Lobito vers Dar es Salaam. Pour le chercheur Thierry Vircoulon, ce positionnement américain illustre la course au contrôle non seulement des ressources, mais surtout des voies d'exportation de ces ressources. La Chine est donc, on l'a dit, de loin le premier partenaire commercial de l'Angola, avec près de 60% des échanges. Pour les Occidentaux, il s'agit d'un interlocuteur stratégique à conserver, un État africain qui reste ouvert à des accords commerciaux avec les puissances occidentales, contrairement à un nombre grandissant d'États qui préfèrent se tourner vers de nouveaux alliés.
Au Soudan, alors que l'armée nationale mène une grande offensive contre les milices FSR dans Khartoum, la capitale, les Émirats Arabes Unis l'accusent, l'armée nationale, d'avoir bombardé la résidence de son ambassadeur. Bavure ou frappe délibérée, en tout cas depuis des mois, les rapports sur les livraisons d'armes des Émirats aux paramilitaires s'accumulent. Gaël Lalex.
Dans son communiqué, le ministre émirati des Affaires étrangères dénonce une attaque haineuse. Sur X, l'armée soudanaise dément ces accusations. Elle rappelle qu'elle ne s'attaque pas aux missions diplomatiques et d'ajouter que ces méthodes ressemblent plutôt à celles des FSR, milices soutenues par les Émirats arabes unis, conclut-elle. Ce matin encore, des bombardements ont eu lieu dans le centre et le sud de la capitale, vers la cité des sports, d'après des témoins sur place. Ce week-end, l'armée soudanaise a pu pénétrer dans le nord de Khartoum et Barry dans sa banlieue. Hier, elle publiait sur ses réseaux sociaux une vidéo de l'assistant du chef d'état-major faisant la revue des troupes dans la zone militaire de Kadarou et les congratulant pour leur victoire. De leur côté, les FSR publient sur X des vidéos de ruines et de civils en détresse. Elles accusent l'armée soudanaise de bombarder de manière indiscriminée. Dans la ville, la situation humanitaire se dégrade encore. La salle d'urgence du Sud, une initiative d'aide menée par des jeunes de la capitale, a annoncé hier la fin des soupes populaires en raison de l'épuisement de leur stock de nourriture. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation alarmante des viols en République démocratique du Congo. Dans un rapport publié ce matin, l'ONG annonce avoir soigné en 2023 plus de 25 000 victimes dans les seules structures de santé qu'elle opère ou soutient dans le pays. C'est plus de deux fois plus que les années précédentes. Les agressions sont particulièrement nombreuses dans la province du Nord Kivu, Passion Ligodi.
91% des victimes soignées par MSF en 2023 viennent du Nord Kivu, une région dévastée par les combats entre le groupe armé M23 soutenu par Kigali et l'armée congolaise appuyée par les milices locales Wazalendo. Pour MSF, c'est dans les camps de déplacés autour de Goma que les violences sexuelles sont particulièrement alarmantes. Dans ces sites surpeuplés, sont prises en charge par les équipes d'MSF la grande majorité des victimes, soit près de 18 000 femmes violées. Le rapport révèle que les femmes et les filles, qui constituent 98% des victimes, sont agressées lors des simples tâches quotidiennes, comme aller chercher du bois ou des loups. Selon MSF, 8 115 femmes ont sollicité un avortement. Certaines victimes ont été testées positives au VIH ou à d'autres infections sexuellement transmissibles. Ces données d'MSF ne sont pas exhaustives, beaucoup des victimes de violences sexuelles ne se rendent pas dans les structures de santé. Christophe Mamboula, responsable des programmes d'MSF en RDC, décrit une situation où les deux tiers des agressions se déroulent sous la menace d'une arme. Et la tendance n'est fait que s'aggraver en 2024. Rien que dans les 5 premiers mois de l'année, le Nord Kivu a déjà enregistré plus de 17 000 victimes, soit 70% du total de l'année précédente. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et Christopher Mamboula est notre invité dans la deuxième partie d'Afrique Midi. Il est 14h43 à Goma.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Nicolas Sion, on va aussi parler de la fin des journées nationales du cacao et du chocolat en Côte d'Ivoire.
Oui, on attend à cette occasion que soit dévoilé le prix minimum garanti du kilo de cacao pour la saison prochaine. Les sports du football, la colombe sportive du Djaélobo a remporté hier la Coupe du Cameroun. Et nous rencontrerons aussi Gad Ben Salem, cet auteur malgache a reçu hier au Festival des Francophonies de Limoges le prix RFI Théâtre 2024. C'est la grand-messe des professionnels du cacao en Côte d'Ivoire. Les JNCC, les Journées Nationales du Cacao et du Chocolat, s'achèvent aujourd'hui au Parc des Expositions d'Abidjan. La filière emploie 6 millions de personnes. C'est un quart de la population ivoirienne qui en vit ou en survie. Cela dépendra essentiellement du prix minimum garanti du kilo de cacao pour la saison prochaine. Il sera annoncé d'ici demain. Abidjan, le reportage de Benoît Almeras.
Ils sont arrivés en bus et en masse de toute la boucle du cacao, Boaké, San Pedro ou encore Boiflé, comme Viviane Goran. Dans sa robe colorée, cette productrice résume le souhait de sa profession.
Et nous voulons avoir un bon prix pour que nous quittons la pauvreté et se prennent en charge. Parce qu'il faut reconnaître qu'être productrice, ce n'est pas facile.
Attente décuplée depuis qu'au Ghana, le kilo de cacao a grimpé de 45% à 1800 francs CFA désormais. Et dans ce contexte, plusieurs partis et syndicats ivoiriens réclament une augmentation inédite du prix minimum. Dans les travées du salon, Kobe Nankwasi Adjoumani enchaîne les poignées de main. Le ministre d'État en charge de l'agriculture temporise.
Il y a des gens qui n'ont aucune notion de ce processus. et qui peuvent donner des montants qui n'ont rien à voir avec la réalité.
À ses côtés, Yves Brahim Akone, le directeur général du Conseil du Café Cacao, demande la confiance des planteurs.
Nous ne faisons que faire notre travail et nous avons conscience que nous faisons correctement notre travail. On n'a jamais déçu les planteurs de Côte d'Ivoire et ne seront pas déçus.
L'an dernier, le prix minimum garanti du cacao avait été fixé à 1000 francs CFA le kilo. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Les sports du football, la colombe sportive du Djaélobo a remporté hier après-midi à Yaoundé la Coupe du Cameroun 2024. Une victoire 1-0 face à une autre équipe novice à ce niveau de la compétition, l'Aigle Royal de la Ménoua. Colombe, club de la ville de Sangmélima, devient ainsi la première équipe du sud du Cameroun à remporter le trophée, pour la plus grande joie de son entraîneur, Richard Towa, lui-même ancien de l'équipe.
Après avoir été joueur de la Colombe en 1986, je reviens aujourd'hui pour donner le précieux trophée à cette équipe. Vous ne savez pas quel joueur on peut avoir en ce moment. On a la Super Coupe qui va se jouer contre le champion du Cameroun. Et il est question pour nous de préparer encore cette Super Coupe avec de bonnes conditions. Et on peut être déjà prêt pour le championnat. Nous, on est prêt physiquement, tactiquement, techniquement pour le championnat. La saison passée, nous sommes sortis quatrième. Donc, c'est tout à fait normal que la prochaine soit premier ou deuxième. Donc, cette Coupe qui a duré a été, n'est-ce pas, un bien pour nous autres qui avons mis long à pouvoir la préparer.
Des propos recueillis par Joël Wadem lors de cette super coupe du Cameroun dont la date n'est pas encore connue. La colombe sportive du Djaélobo affrontera le club de Victoria United de Limbé, champion en titre. Il est malgache, auteur et slameur. Gad Ben Salem a reçu hier à Limoges au Festival des Francophonies le prix RFI Théâtre 2024. Il est consacré pour enfants, sa troisième pièce. Muriel Malouf était sur place à Limoges.
Gad Ben Salem vit entre Antananarivo et La Réunion, où il a déjà à son actif 7 créations théâtrales. Fraîchement débarqué de l'avion, il reçoit son prix à Limoges, le verbe affirmé en véritable poète.
Pour récupérer ce prix, je viens de très loin et je ne parle pas seulement des 11 heures de vol de Madagascar à La Réunion pour arriver à Paris, puis le train. Je parle aussi de cette envie très malgache de s'élever, parce qu'on en a besoin. Donc si je me bats aujourd'hui dans l'écriture théâtrale à Madagascar, c'est aussi pour ça, c'est pour mettre nos rêves en mouvement et essayer de sublimer ce réel qui parfois peut être tragique.
Enfant, la pièce primée de Gad Ben Salem est un monologue, celui d'un camionneur qui sillonne la RN44 à Madagascar. C'est aussi la quête d'un père absent dans un pays en dérive. Hassan Kouyaté, directeur des Francophonies à Limoges, est l'un des membres du jury du prix RFI.
Il y a une écriture de slam, de poésie et de théâtre très contemporain qui ressemblerait à une écriture de scénario. Je voyais aussi les personnages très, très forts, très dessinés. J'ai dit, mais c'est beaucoup, beaucoup de choses pour faire une belle pièce de théâtre.
Une pièce de théâtre qui ouvrira le cycle de lecture de RFI au prochain Festival d'Avignon.
Il est 14h48 à Paris. Anne Kantner, les grands titres de ce lundi 30 septembre.
L'armée libanaise qui annonce à l'instant la mort de l'un de ses soldats dans une frappe de drone israélienne dans le sud du pays. Les bombardements israéliens se poursuivent dans plusieurs régions. Le ministre de la Défense a dit tout à l'heure que la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, n'était pas la dernière étape et le gouvernement libanais, lui, dit redouter une opération terrestre. Le Conseil de l'Europe qui décerne son prix Vaclav Havel à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit dans la clandestinité depuis la réélection contestée de Nicolas Maduro en juillet dernier. Elle a réagi en disant que la dictature dans son pays courait à sa chute inévitable. Et puis en France, Marine Le Pen et plusieurs cadres de son parti, 24 personnes jugées pour détournement de fonds publics européens, des soupçons pour des faits entre 2004 et 2016. Le parti qui s'appelait encore Front National à l'époque est accusé d'avoir embauché des assistants parlementaires au niveau européen, donc payés avec des fonds européens, mais de les avoir fait travailler en fait pour le parti en France. En jeu, il y a une possible peine d'inéligibilité pour Marine Le Pen. On en parlait il y a quelques instants. Médecins sans frontières s'alarme de la recrudescence des viols en République démocratique du Congo. L'ONG indique dans son dernier rapport qu'elle a soigné en 2023 25 000 victimes. C'est deux fois plus que le nombre de personnes qu'elle recevait dans ses structures de santé les années précédentes. Christopher Mamboula, responsable des programmes de MSF en République démocratique du Congo, est votre invité, Nicolas Sure.
Bonjour Christophe Armamboula.
Oui, bonjour.
Alors, un premier point tout d'abord sur les chiffres. Ils ne sont pas exhaustifs, ils ne reflètent pas l'ampleur des viols en RDC. Ils concernent uniquement les 17 projets dans lesquels MSF intervient, essentiellement dans les provinces de l'Est. Et ils ne concernent aussi que les victimes qui viennent se faire soigner. C'est quoi ces 25 000 victimes de violences ? C'est la partie émergée de l'iceberg ?
Oui, effectivement, comme vous avez dit, c'est le nombre de personnes qui sont passées par des structures soutenues ou gérées par MSF dans l'Est. Effectivement, nous avons vu quand même une forte augmentation liée aussi au conflit qui a continué durant 2023 et évidemment jusqu'ici en 2024.
De tous vos projets, ce sont ceux que vous opérez au Nord Kivu qui enregistrent le plus grand nombre de victimes. Qui sont ces victimes majoritairement ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Bon, malheureusement, une grande partie des victimes que nous avons soignées en 2023-2024 sont des gens qui vivent dans les camps des déplacés autour de la ville de Goma. C'est des gens en fait qui sont déplacés à cause de conflits armés et malheureusement, certains en fait ont été déplacés à plusieurs reprises. Qui sont se retrouver maintenant dans des camps, qui habitent dans une promiscuité très très importante, et aussi avec, on peut dire, une faible réponse humanitaire, parce que effectivement ces personnes-là sont entre guillemets forcés d'aller chercher à vivre en dehors de ces camps-là, et c'est là où une partie ou une grande partie de ces violences en fait se passent.
Oui, en fait, hein, ces personnes qui sont des femmes, hein, quasi exclusivement, celles que vous recevez dans vos structures de santé, sont agressées parce qu'elles sortent du camp pour aller trouver de la nourriture à l'extérieur, hein, dans les champs avoisinants.
C'est ça.
Elles sont aussi agressées à l'intérieur des sites. Il y a de l'exploitation, des hommes qui promettent de les aider à accéder à des distributions, qui les agressent. Et puis des femmes agressées aussi aux latrines, aux douches, aux points d'eau qui se trouvent dans ces camps.
Oui, malheureusement, c'est le cas. Comme j'avais dit, les camps sont débordés. Il n'y a pas suffisamment de place pour chaque foyer, pour chaque famille. En plus de ça, nous avons aussi le tissu social qui est un peu déchiré, dans le sens où les gens se retrouvent avec entourés par des gens qu'ils connaissent pas. Et ensuite, évidemment, dans une grande promiscuité comme ça, tout est mélangé et puis des fois c'est la chaos.
Qui sont les agresseurs ?
Il y a une partie en fait surtout ce qui se passe en dehors des camps. Les victimes racontent qu'il y en a souvent des gens en armes, des hommes armés. C'est pas très clair en fait de quel groupe ils appartiennent ou ils soutiennent, mais quand même c'est quelque chose que nous avons constaté.
Et à l'intérieur, ce sont des déplacés eux-mêmes.
Oui, à l'intérieur, c'est tout un mélange aussi. Ça peut être déplacé elle-même, ça peut être aussi, comme vous avez dit, des gens aussi qui les prennent comme c'est des victimes qui cherchent aussi à vivre. Et donc, ces camps-là, ils sont aussi accessibles à des gens de l'extérieur qu'aussi qui passent dans les camps.
Qu'est-ce que vous recommandez pour enrayer ce fléau, Christopher Mamboula ?
Pour nous, ce qu'on parle, en fait, c'est quelque chose qui est multisectoriel. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être résolu par un seul biais. Nous parlons d'augmenter l'aide humanitaire, parce que si les gens arrivent quand même à avoir suffisamment de moyens à vivre, bon, ils vont évidemment sortir moins. Deuxième, c'est aussi la question de l'insécurité et dans les camps, mais aussi autour de ces camps-là. Nous parlons aussi de la société, aussi la société civile, à pouvoir aussi voir comment passer des messages forts à tous en fait qui vivent autour de ces populations, que il y a quelque chose à cette ampleur en fait qui se passe. Et ensuite, évidemment, des groupes aussi des victimes qui peuvent aussi sensibiliser la société, mais les autorités, à la fois tout ce qui est la force de l'ordre, mais aussi sanitaire, sur ce qui se passe et dans quelles conditions ils se retrouvent.
Et il y a aussi une recommandation fondamentale pour les victimes, c'est celle de venir se faire soigner en cas de viol.
Tout à fait. Ça, c'est très important, surtout dans les premières 72 heures, donc les premiers 3 jours après un incident malheureux comme ça, parce que c'est possible quand même à prévenir certaines maladies qui sont sexuellement transmissibles.
Oui, il y a des traitements post-exposition au virus du sida. On peut soigner les potentielles infections sexuellement transmissibles et puis on peut également surveiller le risque de grossesse.
C'est ça, exactement.
Merci Christopher Mamboula. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Gros plan à présent sur la crise de la presse écrite. En Côte d'Ivoire, les ventes de journaux ont baissé de plus de 36% entre juin 2022 et juin 2023, chiffre de l'ANP, l'Autorité Nationale de la Presse. Seuls 2 quotidiens, Fraternité Matin et Le Nouveau Réveil, continuent à vendre chaque jour plus de 1000 exemplaires. Asphyxiée par les difficultés économiques, la presse papier ivoirienne risque bien de mourir. À Abidjan, le reportage d'Abdoulaziz Diallo.
Fraternité Matin, Réveil, Soir Info, Inter, Patriote.
Dans le quartier chic de la Riviera Golf, Sambassi tient un kiosque à journaux. Ce matin, comme à l'accoutumée, les clients ne se bousculent pas. Sur 200 journaux que Samba reçoit au quotidien, au moins 140 retournent chez le distributeur. L'activité tourne au ralenti, nous confie-t-il.
La première difficulté, c'est le désintérêt des lecteurs parce que les ventes ont vraiment baissé. À peine maintenant, on vend 30% des journaux qu'on reçoit. Il y a aussi souvent le retard dans la livraison des journaux. Ça fait que les journaux viennent tard, donc les gens n'achètent plus.
Les entreprises de presse ressentent de plein fouet cette chute drastique des ventes. La plupart d'entre elles peinent à faire face à leurs charges. L'Essor ivoirien, par exemple, fait partie de la quinzaine de quotidiens qui ont vendu moins de 500 exemplaires par jour durant le premier trimestre de l'année 2024. Sidi Terra est le directeur général.
Je n'ai aucune subvention, ni de l'État, ni de qui que ce soit. J'injecte 7 millions par mois pour pouvoir imprimer, il ne serait-ce que 3000 exemplaires dans le mois. On parle de payer les journalistes à la convention. Aucune entreprise de presse ne peut payer les journalistes à la convention, puisque aujourd'hui, nous sommes dans un coma très profond.
La hausse de plus de 30% des coûts d'impression des journaux, l'exigence des imprimeurs d'un paiement au comptant ainsi que les dettes fiscales accentuent les difficultés que rencontrent les organes de presse. Et pour sortir de ce coma, il faut plus de soutien de la part de l'État de Côte d'Ivoire, estime Guillaume Bateau, patron du quotidien Notre Voix.
D'abord, l'annulation de toutes les dettes fiscales, toutes les dettes sociales. En plus, les subventions qui étaient données pour l'impression doivent être réinstaurées. Et puis, que les journalistes bénéficient d'un appui direct de la part de l'État.
Ces dernières années, 8 journaux ont cessé de paraître, selon le régulateur, l'ANP. Pour ne pas subir le même sort, la Conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire sollicite une audience auprès du président de la République, Alassane Ouattara, afin de lui exposer la situation pour que des solutions soient trouvées. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Et c'est à Abidjan que se referme cette demi-heure africaine, réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux. Merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Restez sur RFI, on se retrouve dans un peu plus d'une minute pour l'actualité du continent américain. Dernière partie d'RFI Midi.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Place aux jeunes auteurs, autrices francophones au festival Les Zébrures d'automne avec la création de La Grande Ourse, le texte de Penda Diouf, le récit d'émancipation d'une femme humiliée. Rendez-vous aussi à Limoges avec Gad Bensalem, ce jeune auteur malgache, lauréat du prix RFI Théâtre.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
octobre rose, cancer et travail, quelles recommandations, quelles options?
Mercredi,
distinguer le vrai du faux sur votre cerveau.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
retrouver RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile.